Premièrement, une maman qui nous regarde. Thérèse croyait profondément au mystère que nous célébrons le 15 août, que Marie a un corps glorieux et que par conséquent, elle a un visage, des yeux, et qu'elle est toujours en train de nous sourire. Si Thérèse pensait au sourire de Jésus en regardant la Sainte Face, elle pensait encore plus au sourire de Marie en regardant la statue des Buissonnets qui lui avait souri en mai 1883. Et je pense que ce privilège qu'elle a eu d'être guérie par le sourire de la Vierge a beaucoup contribué à son propre sourire et a beaucoup contribué à la faire vivre en présence du sourire de Marie. Et j'aime rappeler la similitude, le rapprochement que l'on peut faire de ce point de vue-là entre Thérèse de Lisieux et Bernadette de Lourdes. L'une et l'autre ont bénéficié du sourire de Marie. Quand Bernadette a vu la Sainte Vierge lui apparaître dans la quinzaine du mois de février 1858, vous savez que « Aquero », comme disait Bernadette, « ça » qui lui apparaissait, ne disait pas son nom. L'abbé Peyramale, curé de Lourdes, réclamait de Bernadette de connaître le nom de la dame. Bernadette était intimement persuadée que c'était la Sainte Vierge, mais celle-ci ne le lui a jamais dit. Que faisait Marie chaque fois que Bernadette le lui demandait? Elle se contentait de sourire. Tant il est vrai que la Vierge Marie décline déjà son identité lorsqu'elle se contente de poser sur chacun de nous son merveilleux sourire maternel. Elle est vraiment le sourire de Dieu posé sur nous, comme nous le lui disons dans un certain chant que nous aimons bien. Et lorsque Marie a pris congé de Bernadette en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, en juillet 1858, qu'a fait Marie? Elle a multiplié ses sourires pour dire au revoir à sa petite Bernadette. Si bien que le Carmel de Lourdes porte comme second nom le Carmel du sourire de Marie, parce que le Carmel de Lourdes est situé à l'endroit approximatif où se trouvait Bernadette lors de la dernière apparition. Les gendarmes avaient barricadé la grotte pour empêcher la foule de s'y rendre, et Bernadette, qui se sent prise ce jour-là du désir de retourner à la grotte, c'est ce jour-là que la Sainte Vierge va lui apparaître pour la dernière fois, eh bien, est obligée de se tenir à distance. Et c'est ce qui fait que le Carmel de Lourdes est très fier de porter comme nom Carmel du sourire de Marie. Je pense qu'une dévotion mariale intelligente est une dévotion dans laquelle on pense souvent que Marie est en train de nous sourire, et pas de loin, car le ciel, il est là. Il me semble que si la Sainte Vierge m'apparaissait, je ne serais pas plus persuadé de sa présence. Elle est là. Où serait-elle ailleurs? Pas dans le ciel. Marie, de par son Assomption, échappe aux limitations de l'espace et du temps. Elle est capable d'être en même temps à Lisieux et à Paris et à Buenos Aires. C'est cela l'Assomption. C'est Marie qui est mise en état de visiter tous ses enfants. Et c'est très bon que désormais, dans la liturgie, l'évangile de la messe du 15 août soit l'évangile de la visitation. Non seulement parce que l'évangile introduit le chant du Magnificat, mais parce que c'est une façon de nous rappeler que, par son Assomption, Marie est capable de visiter tous ses enfants. Si Thérèse a pu dire qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre, à bien plus forte raison, Marie peut le dire. Bon, donc, Marie, pour Thérèse, c'est d'abord un sourire maternel posé sur elle. Mais c'est aussi et surtout un manteau qui l'enveloppe. Marie n'est pas seulement un sourire devant elle, c'est un manteau qui la fait vivre en Marie. Et j'aime rappeler que c'est cette idée qui a réconcilié Jean-Paul II avec la dévotion mariale. Je vous rappelle que Jean-Paul II, lorsqu'il était jeune, ne supportait pas la dévotion mariale des Polonais envers Notre-Dame de Częstochowa. Carole estimait qu'à force de prier Notre-Dame, les Polonais oubliaient la place centrale du Christ dans la piété chrétienne. Ils exagéraient. Ils travaillaient alors à l'usine de soude, pour échapper aux Allemands, et il avait eu la bonne idée de mettre dans sa musette, à côté de son casse-croûte, la traduction polonaise du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint-Louis-Marie Grognon de Montfort. Et c'est en lisant ce petit traité écrit par un prêtre français qu'il a été réconcilié à jamais avec la dévotion mariale, au point de mettre le grand thème de Marie dans son blason pontifical. Et qu'a-t-il découvert chez Grignon de Montfort? Eh bien, cette vérité extrêmement mystérieuse, que Marie est notre maman au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement quelqu'un qui nous aime, qui nous regarde, qui nous sourit comme une maman, mais c'est quelqu'un qui nous enfante comme une maman. Alors bien sûr que Marie n'est pas un immense utérus, hein, produisant des enfants, on tomberait dans une mythologie ridicule, personne ne le dit, mais nous sommes mystérieusement en Marie. Une expression qui revient plus de 100 fois sous la plume de Grignon de Montfort. Comment éclairer ce mystère? Eh bien, de plusieurs façons.